La balade sonore des Islandais.
Pour la première étape du circuit, rendez-vous au mur des disparus en mer, dans le cimetière à côté de Mille Marins, mur qui est le témoignage de l'hécatombe qui a endeuillé notre région. Comme le sont les ex-voto et les vitraux des chapelles, les récits des naufrages dans les journaux, les revues et les romans. Bénévole de l'association Pléranec Guéchal, je vous accompagne pour cette audio-visite en pensant à mon grand-père Simon, marin à Islande et à Terre-Neuve, qui avait 2 mois quand son père Toussaint Aristide disparut en mer en décembre 1881 à 29 ans. Lui-même était devenu orphelin à l'âge de 2 ans lorsque son père Yves, mon arrière-arrière-grand-père, fut déclaré disparu le dernier jour de mars 1854. Il était embarqué comme matelot passager sur un trois-mâts parti de Morlaix pour Saint-Pierre-et-Miquelon, navire déclaré perdu corps et biens sur le trajet. Ce mur des disparus en mer nous fait prendre conscience du tribut payé à la grande pêche par les familles de marins de Ploubalanec. Sur le premier panneau en marbre beige clair que vous pouvez voir, on rappelle que dans toute la région, la pêche à la morue se pratiqua intensément en Islande de 1852 à 1935. Au moins 120 goélettes disparurent pendant ces sinistres années, dont 70 perdus corps et biens. 2000 marins furent à jamais engloutis dans la froide mer d'Islande ou inhumés en Islande, à Reykjavik, dans les fjords de l'Est, à Nordfjordur, au cimetière de Fasskrudfjordur, près de l'hôpital français, dans les fjords de l'Ouest. Un peu plus loin, un second panneau noir évoque aussi la mémoire des marins partis pêcher à Terre-Neuve, à Saint-Pierre-et-Miquelon et au Groenland, les graviers, les doriciers, les marins enterrés en Islande et les goélettes dont les naufragés furent sauvés. Vous pourrez découvrir dans le musée Mémoire d'Islande des journaux de bord et des témoignages faisant état des conditions de vie terribles à bord. Les soins en cas de maladie ou de fracture étaient réduits au minimum. Le travail était éreintant et poussait les équipages à consommer de l'alcool. Pour avoir une meilleure pêche, les goélettes partaient parfois trop tôt, en février, en période de violentes tempêtes. Certaines étaient mal entretenues. Les capitaines étaient de très bons pêcheurs, mais certains moins bons navigateurs, ce qui entraînait des erreurs de navigation. Seule la pêche comptait. Certaines familles de Ploubalanec perdaient lors d'un même naufrage tous les fils de la famille, le père, le fils, l'oncle, le neveu. Comment alors faire le deuil lorsqu'on ne pouvait récupérer le corps du pêcheur disparu? Dans la revue Le Petit Journal, datée de 1924, on pouvait déjà lire que « Le jour de la Toussaint, il est coutume pour ceux qui ont perdu un être cher de déposer des fleurs sur sa tombe. Mais les tombes, les marins disparus en mer n'en ont pas. On ne les oublie point cependant. En Bretagne, une coutume pieuse veut que les mères ou veuves déposent au cimetière de menues boîtes de bois en forme de cercueil des cénotaphes. Et c'est devant elles que les femmes en deuil vont s'agenouiller et déposer des fleurs. Les couronnes, les croix et les plaques, commençant par « en mémoire de » ou « à la mémoire de », donnent une vraie forme à ces sépultures sans corps, appelées « mémoire ». Le mur des disparus permet donc à cette pratique funéraire singulière de prendre place au sein même du cimetière de la commune. Mais il n'a pas toujours eu la forme que vous voyez aujourd'hui et a évolué au cours des années. À partir de 1859, les familles viennent s'y recueillir et y apposent des croix en bois, des couronnes décorées de fleurs, des panneaux en bois individuels avec le nom des disparus. En 1939, la mairie veut agrandir le cimetière. Les familles récupèrent alors les mémoires, mais les travaux ne se font pas à cause de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, en 1947, on commence à chercher les noms des marins pour refaire des plaques commémoratives. Mais les familles, malgré la demande du maire et du recteur, ne rapportent pas toutes les mémoires. Certains sont déposés sous le porche de la chapelle de Perrot-Samon et y subsistent encore, comme vous pourrez le voir pendant votre promenade. En 1952, Se basant sur la liste des naufrages établie par Mgr Carlevéo, la mairie fait installer des plaques noires uniformes, indiquant chronologiquement les naufrages de 1852 à 1913 avec leur nombre de morts. Deux d'entre elles sont visibles au musée Mémoire d'Islande. En 1983, le mur reçoit la visite de la présidente de l'État islandais, Vigdís Finnbogadottir, qui rappelle les liens forts entre les deux pays. En 1992, Louis Kermarek, un des derniers Islandais encore en vie, demande que la liste des goélettes naufragés soit complétée. On restaure une partie des mémoires en y ajoutant les naufrages de la période 1913 à 1935, permettant au mur de couvrir les 83 années de la pêche à Islande. Au fil du temps, quelques plaques individuelles, peintes ou gravées, ont été rajoutées par les familles. C'est le cas de la plaque en mémoire des trois fils Legras, qui montre le tribut d'une famille décimée par le naufrage du Deux-Sex en 1898. On ne connaît pas encore le nombre exact de marins de Ploubalanec et de sa région, disparus à la grande pêche. Des historiens et passionnés travaillent encore aujourd'hui à retrouver les noms des pêcheurs disparus, une tâche rendue difficile par l'imprécision ou l'absence de certains registres d'équipage. Le mur est quant à lui entretenu régulièrement par la mairie avec l'aide de bénévoles. Longez le mur en pensant à ces disparus et constatez que certaines années ont été dramatiques. 1873, 1878, 1901, 1905 et 1906. Dans le livre « Souvenirs d'Islande » écrit par Tonton Yves, pêcheur ayant fait l'Islande, un fermier islandais raconte ainsi les naufrages survenus le jeudi 6 mars 1873 sur la côte sud-est de l'Islande, vers Stockness. Vous pouvez voir les plaques commémorant ces naufrages vers le milieu du mur. De la ferme, on voyait beaucoup de voiliers français qui venaient d'arriver en Islande. Éparpillés, ils pêchaient tous, à proximité de la côte, et se laissaient dériver vers l'ouest, le long de la côte, à cause du petit vent d'est. L'après-midi, le vent passa au sud-est et la neige se mit à tomber. Tout s'obscurcit à tel point que toute la flottille disparut sous la neige. Juste avant minuit, une tempête de sud se déchaîna, accompagnée d'une grosse pluie. Il faisait tellement noir qu'on distinguait à peine le ciel et la terre, alors que la lune n'était qu'à son septième jour. Le lendemain, quand les fermiers sortirent du lit, ils virent un groupe d'hommes qui venaient à pied en direction de la ferme. C'était 18 naufragés d'une goélette française qui avait été jetée à la côte durant la tempête nocturne. Durant cette nuit de grande tempête de sud, 4 goélettes et un lougre avaient sombré. Notre-Dame-des-Dunes de Paimpol, 23 disparus. Fleur de la Mer ou Fleur de Marie, 3 disparus. Marie-Joséphine ou Marie-Joseph, 20 disparus. Léonie-Clémentine, 11 disparus. Et 4 frères, 12 disparus. Tous les capitaines de ces bateaux périrent, sauf celui de Fleur de la Mer. Il réussit à venir vivant à la côte avec son équipage après l'abandon de son bateau. Il dit que c'était la troisième fois que son bateau faisait naufrage. Il dit aussi qu'il n'avait ni femme ni enfant. Ayant ainsi parlé, il retourna à l'épave. Plus tard, ses matelots le trouvèrent mort sur le pont. Ce bateau était resté couché, indemne, sur des rochers plats. Mais à la marée montante, il commença à se disloquer et se brisa. On retrouve aussi un autre récit de naufrage dans le roman « Pêcheur d'Islande » écrit en 1886 par Pierre Loti, où Jan Gaos et Sylvestre Mohan, embarqués sur la goélette Marie, luttent contre la tempête. Il avait aussi changé d'aspect et de couleur, le soleil d'Islande. Et il ouvrait cette nouvelle journée par un matin sinistre. Cela soufflait toujours plus fort, faisant frissonner les hommes et les navires. Les lames, encore petites, se mettaient à courir les unes après les autres, à se grouper. Elles s'étaient marbrées d'abord d'une écume blanche qui s'étalait au-dessus, en bavure. Ensuite, avec un grésillement, il en sortait des fumées. On eût dit que ça cuisait, que ça brûlait, et le bruit aigre de tout cela augmentait de minute en minute. On ne pensait plus à la pêche, mais à la manœuvre seulement. Les lignes étaient depuis longtemps rentrées. Ils se hâtaient tous de s'en aller. Les uns pour chercher un abri dans les fjords, tenter d'arriver à temps. D'autres préférant dépasser la pointe sud de l'Islande, trouvant plus sûr de prendre le large et d'avoir devant eux de l'espace libre pour filer vent arrière. Toujours plus fort, ce grand souffle qui agitait toute chose. À midi, la Marie avait tout à fait pris son allure de mauvais temps. Ses écoutilles fermées et ses voiles réduites, elle bondissait, souple et légère. N'ayant plus de misaine, elle fuyait devant le temps, suivant l'expression de Marine qui désigne cette allure-là. Toujours cela grossissait, et malgré leur allure de fuite, la mer commençait à les couvrir, les manger, comme il disait. Les lames se faisaient toujours plus hautes, plus follement hautes. Il en tombait de lourdes masses sur le pont, avec un bruit claquant. Et alors la Marie vibrait tout entière comme de douleur. Il ne se voyait plus. Aux instants les plus dangereux, chaque fois que se dressait derrière la montagne d'eau, nouvelle, surplombante, bruissante, horrible, heurtant leur bateau avec un grand fracas sourd, une de leurs mains s'agitait pour un signe de croix involontaire. Un extrait du roman est aussi gravé en islandais et en français sur une stèle dédiée aux pêcheurs français à l'ancien cimetière de la capitale de l'Islande, Reykjavik. Vous découvrirez plus tard la chapelle de Perosamon où se trouvent les derniers mémoires authentiques et personnalisés et les paysages qui ont vu naître les Islandais.
Poursuivez votre circuit en traversant la place et en empruntant la ruelle à gauche de l'hôtel des Agapantes. Traversez la rue principale du bourg et continuez toujours tout droit en descendant vers la mer jusqu'à rejoindre le calvaire cornique.